Radio Kapi. Oh, Kapi.
Reprise timide des activités socio-économiques à Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, après plus de deux semaines de ville morte. L'annonce a été faite ce mercredi par le président de la société civile locale, après avoir effectué un tour dans la cité pour s'assurer de la reprise effective des activités. 1 à 3 morts, plusieurs blessés et des maisons incendiées selon des témoins sur place. Conséquence des affrontements hier mardi à Ilongonkindo, localité située à 15 km au sud de Bouende. Certaines personnes évoquent les conséquences d'un conflit politicien entre partisans de Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, et ceux de Guy Luando, actuel ministre de l'aménagement du territoire. Le directeur du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR, et notre invité, Valentin Tapsoba, parle des conditions de vie des réfugiés du Soudan du Sud et du déficit du financement qui n'est couvert qu'à hauteur de 16% sur un budget d'environ 200 millions de dollars américains. Bienvenue à tous. Au Nord Kivu, les activités socio-économiques ont repris timidement ce mercredi à Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, après près de deux semaines de ville morte. C'est ce qu'annonce ce mercredi le président de la société civile locale, après avoir effectué un tour dans la cité pour s'assurer de la reprise effective des activités. Pour lui, tout semble revenir à la normale, même si les écoles traînent encore à ouvrir leurs portes, ce qui pose problème. Philippe Paluku Bonané est joint par André Kitenge.
Juste après ce mouvement de grève dans le centre, bon, on peut dire qu'il y a certaines portes qui viennent d'ouvrir et même aussi les autres, comme les motards, sont en train de travailler un peu correctement. Donc les activités auraient pris timidement parce qu'on ne peut pas dire que c'est correctement. Même aujourd'hui, vous savez, les études, les élèves ne vont pas encore à l'école. Donc les activités scolaires ne sont pas encore en marche. Donc c'est ça la difficulté encore qui continue et on est en train de voir comment on peut appeler les élèves. L'administrateur a fait appel aux différentes couches qui sont partenaires de l'éducation pour qu'elles puissent voir comment maintenant on peut réintégrer. Mais on ne sait pas parce qu'on est en train de voir comment ça va aller. Et d'autres questions, les parents sont en train de se demander, oui, nous allons rentrer à l'école. Est-ce que quand nous allons y rentrer, est-ce qu'on ne va pas encore lui demander beaucoup d'argent? Donc c'est ça la situation. On ne sait pas quoi faire, mais juste après la réunion de l'administrateur, c'est lorsqu'on saura encore qu'est-ce qui va se passer compte tenu de ces élèves.
Restons au Nord Kivu pour vous dire que des enfants ont été utilisés dans les manifestations dites anti-MONUSCO déclenchées au début du mois d'avril. Ce constat est fait par le Bureau urbain du genre, famille et enfants de Butembo. Le constat a été révélé à l'issue d'une rencontre organisée mardi par les acteurs étatiques et non gouvernementaux œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. L'objectif de cette rencontre était de faire un état des lieux de la protection de l'enfant durant cette période des manifestations. Le Bureau du genre, famille et enfants appelle tous les enfants à ne pas se laisser influencer par les initiatives pouvant nuire à leur intégrité physique. Écoutons à ce sujet Wasigia Kambale, le chargé de la collecte des données sur les violences basées sur le genre au sein de ce bureau au micro de Grace Hamzati.
Il a été constaté que les enfants ont séché les cours. Les enfants ont été impliqués dans les manifestations et il paraît que certaines personnalités manipulent les enfants pour qu'ils participent aussi à cette manifestation-là. Oui, nous reconnaissons que les enfants ont droit d'exprimer leur opinion, de manifester, mais sous certaines conditions. Comme les enfants qui sont à Béni, qui passent la nuit à la Belle Étoile et sans aucune protection et sans réunir les conditions pour dormir. Ça, ce sont des cas qui peuvent nuire à la santé physique de l'enfant. En tant qu'acteur de protection de l'enfant, nous avons souhaité à ce que les enfants puissent prendre des initiatives qui ne menacent pas leur intégrité physique, mais aussi qui ne soient pas manipulés par de grandes personnes. Il est de la responsabilité des grandes personnes de préparer un avenir pour les enfants. En ce moment-là, il faudrait que ces enfants-là soient à l'école.
Rendons-nous à présent au Sud Kivu. Des coupeurs de route armés ont braqué dans la nuit de mardi des véhicules sur la route nationale numéro 2. Les passagers passants ont été dépouillés de tout, argent, téléphone et autres biens de première nécessité. L'incident s'est produit à Chisado, dans le territoire de Kabare, sur la route qui relie Bukavu au territoire de Walungu, Mwenga et Chabunda. Jean Kassami relate les faits.
Ces coupures de route non identifiées ont bloqué la circulation d'une dizaine de véhicules en direction de Bukavu à Lungu et vice-versa. Quelques balles ont crépité pour imposer aux passants de se soumettre au pillage. Aucune réaction des forces de l'ordre n'a été observée, pourtant les autorités ont ordonné récemment l'implantation des éléments de la police pour sécuriser ces tronçons minés par l'insécurité. Un autre cas de braquage venait de se produire sur la même route et presque au même endroit le samedi passé. C'était toujours à côté d'un poste de la police déployé le long de la RN2 sur une distance d'au moins 2 km à partir de Mushweshwe jusqu'à Chidao. La société civile de Kabare, qui avait alerté les autorités sur la nécessité de placer les forces de l'ordre sur ces tronçons, regrette aujourd'hui que cette présence des policiers ne sécurise en rien la population. Deux morts et des blessés y ont déjà été enregistrés sans la moindre intervention.
Échanger sur les problèmes sécuritaires qui sévissent dans la province est l'un des objectifs de la rencontre d'hier à Kinshasa entre une dizaine des députés provinciaux et les sénateurs du Nord Kivu. Selon le sénateur Pierre Kabanda, l'un des organisateurs de cette rencontre, il était urgent que les sénateurs puissent échanger avec leurs électeurs pour conjuguer les efforts afin d'aider le gouvernement Samalou Kondé à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la province du Nord Kivu. Reportage Alain Irung.
Ce groupe d'une dizaine de députés provinciaux du Nord Kivu est venu à Kinshasa pour assister à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Cependant, que peuvent-ils attendre ensemble avec les sénateurs du Nord Kivu de ce nouveau gouvernement? Le sénateur Pierre Kabanda Kayoubouti répond.
Nous sommes conscients que maintenant, tous les problèmes qu'on a posés, qui n'ont jamais trouvé de solution, pourront trouver des solutions. Il n'y a pas seulement les problèmes d'insécurité. Il y a un problème de la rétrocession. Les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales ne reçoivent pas les rétrocessions. C'est un grand problème. Il y a beaucoup de problèmes. Le développement, l'investissement, il n'y a plus rien.
Pour sa part, le député provincial Kakule Sassita, élu de Lubero, insiste sur les attentes de la population du Nord Kivu par rapport au gouvernement Samalou Kondé.
La population du Nord Kivu, en particulier celle de l'Est de la République démocratique du Congo en général, attend beaucoup. Beaucoup, ça veut dire, par rapport à l'insécurité, il faut que la solution soit trouvée. Par rapport aux investissements, il faut que la solution soit là, que les routes soient construites comme promis, que les élections aient lieu dans le délai.
Enfin, les sénateurs et le groupe des 11 députés provinciaux du Nord Kivu ont réaffirmé leur soutien et leur volonté d'accompagner le gouvernement Samalou Kondé.
Le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point la jeunesse du territoire de Mbanzangungu. En sit-in ce mardi devant le bâtiment de la territoriale de Mbanzangungu, ces jeunes ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'inaction des autorités de la RDC et le silence de la communauté internationale face aux massacres perpétrés par les groupes armés dans ce coin du pays. Dans leur mémorandum déposé auprès de Luc Makiadi, administrateur du territoire de Mbanzangungu, ces jeunes appellent le président de la République à mettre urgemment fin aux tueries et à l'insécurité dans plusieurs coins du pays. Je le disais en titre, 1 à 3 morts, plusieurs blessés et des maisons incendiées selon des témoins sur place, conséquence des affrontements hier mardi à Ilongonkindo, localité située à 15 km au sud de Bouende dans la Chuapa. Des autochtones du village se sont attaqués aux populations originaires de Bokungu, ceux-ci qui ont fui par centaines pour s'abriter à Bouende devant la mairie. Certains évoquent les conséquences d'un conflit politicien entre partisans de Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, et ceux de Guy Luando, actuel ministre de l'aménagement du territoire, mais la société civile parle plutôt d'un conflit administratif. Plus de détails avec vous, Paul-Richard Malengela.
Des témoins affirment que le campement Pongobele, majoritairement habité par des ressortissants de Bokungu, a été ce mardi le théâtre des affrontements. Affrontements à la machette qui ont opposé ses habitants aux originaires de la localité d'Ilongo-Kindo, village et groupement d'origine de l'ancien ministre Willy Bakonga. Il y aurait 3 morts selon certaines sources, mais le président du cadre de concertation de la société civile de la Chuapa parle, lui, d'une seule victime, avec 9 blessés graves soignés à l'hôpital et 13 maisons incendiées. Prosper Bonko signale aussi une catastrophe humaine avec le déplacement de plus de 500 personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile et sous la pluie devant la mairie de Boindé. Des policiers et des militaires ont été déployés en interposition sur les lieux en vue de calmer la tension encore vive entre les deux communautés, a ajouté notre source. Par ailleurs, certaines sources évoquent à l'origine de ces affrontements le prolongement du conflit entre Willy Bakonga et Guy Luando, deux politiciens soutenus par les deux communautés antagonistes. Mais la société civile souligne que le conflit il est plutôt administratif. Il est lié à la dénomination d'un quartier que les gens de Bokungu ont voulu baptiser de leur nom alors qu'il appartient au territoire de Boindé. Bandaka pour Chamaningue, la radio Okapi.
Suspendu depuis la semaine passée par le gouverneur de province, les bourgmestres de toutes les trois communes du village d'Inongo, chef-lieu de Maïndombé, rejettent cette décision de Mputupol qu'ils accusent de tribaliste et de conflictualité généralisée avec les institutions de la province, de règlement de comptes et de manque de collaboration avec eux dans la gestion des communes. Dans leur déclaration faite à la presse lundi à Inongo, ces chefs d'entité appellent le président de la République à retirer à la tête de la province de Maïndombé le gouverneur Mputupol pour sauvegarder la paix dans cette partie du pays. L'extrait de cette déclaration lu par le bourgmestre Bolieli Bolokote au micro de Irène Mboma.
Nous, bourgmestre de la ville d'Inongo, dans la province de Maïndombé, déclarons ce qui suit. 1. Constatons que depuis sa réhabilitation par simple communiqué du ministre national de l'Intérieur, après sa démission, le gouverneur Mputupol, pris par le tribalisme exagéré, les règlements des comptes, la haine, la chasse à l'homme et la conflictualité généralisée avec les institutions et les services de la province. 2. Regrettons le manque de collaboration du gouverneur précité avec les bourgmestres, particulièrement à ce qui concerne la gestion des communes. 3. Rejetons en bloc les mesures de suspension prises à notre égard, lesquelles constituent une anticipation et une vengeance sans surprise à notre revendication des frais de rétrocession des ETD, par lui détournés pendant plusieurs mois, laissant celle-ci dans un état de sous-développement sans précédent. 4. Demandons au chef de l'État de retirer sans condition ce tueur de la province.
Signalons que ces trois bourgmestres de la ville d'Inongo étaient suspendus parce qu'accusés de l'incompétence, de l'insoumission, de mépris de l'autorité provinciale et de désertion. Début de travail depuis hier pour certains membres du gouvernement Samalou Kondé Kyenge. Les cérémonies de remise et reprise ont déjà eu lieu à la primature et dans certains ministères. Dans les rues de Kinshasa, la population continue de commenter sur le programme du gouvernement. Si certains apprécient, d'autres n'y trouvent par contre rien de nouveau. Mais tous attendent de voir les retombées des actions du gouvernement, notamment dans la pacification de l'est du pays, également dans l'amélioration du social. Suivez ces Kinois qui ont donné leur point de vue à Michel Loutete.
C'est déjà entendu. On attend le voir à l'œuvre, que tout ce qu'il a dit, que ça puisse se matérialiser. Sinon, ce sont des discours, des répétitions où la situation des Congolaises et Congolais n'a jamais changé.
Le programme n'est pas ça la question, mais le mettre en application, c'est ce qui pose problème. On peut beau dire, mais la conjoncture de la population jusque-là reste la même. Aucune amélioration. Je demande que Dieu puisse les aider à cultiver l'amour pour tous les Congolais et la nation.
Le problème aussi, c'est la population. Je demande plus aux Congolais de soutenir le gouvernement et d'être plus travailleurs.
Je suis content du programme parce que nous voulons que le massacre qui sévit à l'est du pays cesse. Voir nos frères se faire tuer ne nous arrange pas. Que la paix, comme l'a promis le Premier ministre, soit rétablie pour toujours.
Que les gens ne se voient pas d'abord eux-mêmes, qu'ils ne voient pas leur poche, qu'ils puissent voir d'abord le prochain.
Tout ce que le Premier ministre a dit va dans le sens de développer ce pays. Mais cela n'est pas réalisable dans la mesure où il y a insécurité permanente à l'est.
Dans la province de la Tchopo, rien ne va plus au Comité fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kisangani. Les présidents sectionnaires de ce parti politique viennent de désavouer le président ainsi que le vice-président de la fédération de Kisangani. Dans une déclaration à la presse locale lundi dernier, les signataires de cette déclaration reprochent à Adeli Likunde et Herman Emakanya, respectivement président et vice-président de l'UDPS Kisangani, notamment la mauvaise gestion et le tribalisme. Par conséquent, ils sont interdits d'engager le parti car un intérimaire est déjà désigné. Un extrait de cette déclaration lue par leur porte-parole, Célestin Chimanga, au micro de Jacques Mokonkole.
Sa gestion plante le décor des liquidations du parti avec sa gestion chaotique et opaque qui se matérialise par la mégestion caractérisée des finances du parti, le non-respect des responsabilités des différents départements, par la non-association des sectionnaires, moins encore des fédéraux dans la dite gestion, par la communication insuffisante. Cette même liquidation se justifie également par le népotisme grâce auquel il tribalise la gestion du parti en utilisant les membres de sa famille au détriment des vrais membres du parti. Il se distingue aussi par la gestion clientéliste. Eu égard à tous ces faits les reprochés, la base de l'IDPS Fédération de Kisangani retire sa totale confiance aux deux responsables du parti, le président fédéral Deli Likunde et le vice-président Herman et Makanya. Par conséquent, ils ne peuvent plus engager le parti dans la fédération de Kisangani car l'intérim est confié au premier vice-président Okumu.
Actualité internationale.
Au Tchad, les opposants et la société civile hostile au Conseil militaire de transition appellent à des nouvelles mobilisations ce mercredi. Un appel à sortir dans les rues reconduit avec une journée de mardi marquée par d'importants rassemblements dans les quartiers périphériques de la capitale et dans certaines villes de province. Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman affirme être d'accord à 90% avec la politique de Joe Biden. Le prince héritier saoudien répondait lors d'un long entretien télévisé à la question « Les États-Unis ont-ils tourné le dos à Riyad après l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche ?» Le président américain s'est montré très critique, à l'inverse de son prédécesseur, à l'égard du royaume saoudien, notamment en matière des droits humains. Mohamed Ben Salam a donc tenté de minimiser les différences avec le partenaire américain.
L'invité.
Nous recevons avant la fin de ce journal le directeur du bureau régional du Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR, Valentin Tapsoba, qui est en mission depuis lundi en territoire d'Arou, en Ituri. Il nous parle des conditions de vie des réfugiés du Soudan du Sud et du déficit de financement qui n'est couvert qu'à hauteur de 16% sur un budget d'environ 200 millions de dollars américains. Il s'entretient avec Isaac Remoyope.
Monsieur Valentin, directeur du bureau régional d'HCR pour l'Afrique australe. Vous êtes en mission en territoire d'Arou et dans la province du Haut-Uele. C'est pour la première fois que vous réalisez une mission dans cette partie de la RDC depuis votre prise de fonction. Quels sont les constats que vous avez faits par rapport à leurs conditions de vie?
C'est effectivement la première fois que je visite cette partie de la RDC où l'État congolais a généreusement accueilli des réfugiés sud-soudanais qui ont fui des conflits armés ou la persécution. C'est pour moi également une occasion de remercier très sincèrement le gouvernement de la RDC et surtout la population d'accueil pour l'hospitalité légendaire accordée à nos frères africains venus du Sud-Soudan. Après un exercice de vérification avec notre partenaire, la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, nous avons pu constater une diminution du nombre de réfugiés sud-soudanais sur le territoire congolais, principalement dû au retour spontané de 89 572 réfugiés au début de l'année dernière. Nous comptons aujourd'hui un peu plus de 55 000 réfugiés, soit une diminution de 38% par rapport au chiffre de l'année dernière. Mais retenons cependant que la situation sécuritaire au Sud-Soudan demeure toujours fragile et volatile.
Alors, quelles sont les actions qui sont prises par votre agence pour améliorer les conditions de vie de ces réfugiés qui sont confrontés à de nombreux défis?
Comme vous le savez très bien, le HCR vient en appui au gouvernement congolais et dans ce cadre, avec le soutien des partenaires, en plus de la protection physique des réfugiés, un certain nombre d'activités sont réalisées afin d'améliorer les conditions de vie des réfugiés. Et pour cela, on peut citer les activités d'autonomisation pour une autosuffisance des réfugiés, telles que l'agriculture, la pisciculture, la formation professionnelle qualifiante, le soutien des enfants à l'éducation primaire et secondaire, le soutien dans la santé à travers les soins primaires et secondaires, le renforcement du partenariat avec les différents acteurs humanitaires et de développement afin de mieux répondre aux attentes de ces populations. Le partenariat, on peut citer par exemple le partenariat avec le PAM, la FAO, l'Union européenne, African Park, Congo et le PNUD.
Alors, Madame la représentante Yasser a révélé à la presse lors de sa mission l'année dernière que les besoins des réfugiés sont couverts à hauteur de 33% seulement. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour la mobilisation des fonds en vue de combler ces déficits et assurer leur prise en charge selon les normes requises ?
L'information que Madame la représentante vous avait donnée l'année dernière est correcte. Cette année, je dois vous dire que l'agence n'a reçu que 16% des 204,8 millions de dollars nécessaires au sein de notre opération RDC. Cette pénurie de fonds met sérieusement en péril nos efforts pour apporter de l'aide dans le cadre de multiples situations d'urgence humanitaire, comme celle que nous avons actuellement dans le nord du pays, avec le récent afflux que vous connaissez très bien de réfugiés centrafricains. Ce manque de financement va obliger le HCR à réduire ses programmes dans un certain nombre de secteurs et pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour des milliers de personnes en RDC, notamment en exposant les femmes et les enfants à des risques accrus, en perturbant les services vitaux tels que la santé, les abris, l'eau et l'assainissement, ainsi que de nombreux autres programmes de secours essentiels. Nous continuons de faire un plaidoyer auprès de nos donateurs et aussi davantage de nouveaux donateurs que nous cherchons à atteindre afin que davantage de financement soit à notre disposition afin d'offrir notamment des solutions durables en matière de logement ou encore en mettant à disposition des terres agricoles pour les réfugiés et les Congolais. Au-delà des financements supplémentaires, le HCR demande aux donateurs de faire preuve de flexibilité lors du versement des contributions afin que les ressources puissent être allouées où les besoins sont les plus critiques.
Monsieur Valentin Tapsoba, directeur bureau régional d'HCR pour l'Afrique australe, je vous remercie.
Merci pour le temps qui m'a été consacré.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.